Bienvenue dans le cadre de ce podcast enregistré aux ETS 2024 à Strasbourg en décembre dernier. Avec Jean-Christophe Julie, élève administrateur territorial, et moi-même, Gilda Juillard, nous recevons deux invités, Mathilde Mus, docteur en psychologie, et Domitien Détry, délégué territorial sud-ouest à Voie Navigable de France. Faciliter le passage à l'action, soigner le collectif pour rendre les organisations plus résilientes. Nos deux invités proposent deux regards croisés sur le rôle du dirigeant pour accompagner la transition écologique et sa combinaison avec l'impératif de cohésion sociale. Dans le cadre de ce deuxième épisode, nous vous proposons des outils pour répondre au quotidien et dans vos collectivités à ces enjeux. Maintenant, le sujet, c'est comment passer à l'action. Domitien, à la faveur de ton expérience et aussi des sujets qui t'intéressent, de transformation et de transformation avec les ressources humaines, quel est ton avis? Comment réagis-tu finalement à ce qui vient d'être dit? On a parlé notamment d'un phénomène d'inertie, d'un risque aussi d'une perception erronée entre une efficacité d'une mesure, entre ce qu'elle est et finalement ce qu'on ressent. Comment faire différemment aujourd'hui?
Déjà, ce que je voulais dire, c'est que le point de vue de Mathilde est une vraie bouffée d'oxygène et que ce que ça m'inspire, c'est que il nous amène à nous interroger sur les fausses évidences qui guident souvent l'action publique. Et il y a dans le monde des acteurs publics et des collectivités territoriales n'échappent pas à la règle, un défaut probablement de réflexion, d'introspection sur ces sujets-là, parce que on pense trop souvent que draper du monopole de l'intérêt général, on peut avancer, dérouler, agir, transformer sans difficulté. Or, on le voit bien à la lumière du témoignage de Mathilde, il nous manque dans les organisations publiques et peut-être dans les collectivités en particulier des fonctions d'ingénierie qui viennent mobiliser la richesse des sciences sociales pour accompagner le déploiement des politiques publiques et pour accompagner les transformations internes. Et de ce point de vue-là, nous avons un corps d'excellence qui sont les ingénieurs territoriaux qui ont fondé leur légitimité d'abord sur de la légitimité des sciences dures et des sciences techniques. Et moi, j'appelle de mes voeux le fait qu'il y ait une ingénierie des sciences sociales qui se déploie dans les collectivités avec, au-delà de la mobilisation de la science juridique, qui est évidemment très forte, qu'on mobilise les sciences de gestion, les sciences cognitives et comportementales qui peuvent beaucoup nous apporter, et finalement travailler en profondeur sur un marketing de l'action publique en écartant d'emblée la connotation péjorative que peut avoir ce sens, mais en disant tout simplement que le grand mérite du marketing, c'est de mettre la perception, la représentation, la réalité du client dans le monde privé, de l'usager dans le monde public au cœur du système. Et nous avons eu quelques tentatives autour du design des politiques publiques, mais qui sont un peu l'exception qui confirme la règle, avec quand même, grosso modo, un défaut d'introspection sur ce sujet. Alors, probablement dû au fait que les collectivités sont pilotées par des élus qui ont l'onction du suffrage universel, qui peut les amener parfois à penser trop vite que, dès lors qu'ils ont l'onction du suffrage universel, ils sentent intimement comment les choses peuvent être perçues par la population. Or, la légitimité démocratique n'empêche pas de mobiliser les apports scientifiques. Le dernier point sur lequel je voulais rebondir sur l'intervention de Mathilde, c'est que tout ça nous montre bien que pour les cadres dirigeants que nous sommes, la question des compétences relationnelles, au sens de savoir voir loin et voir proche en même temps, savoir capter les signaux faibles des grandes transformations et des petites irritations ou agitations à l'échelle de notre organisation, ces fameuses soft skills, même si aujourd'hui elles sont un peu dévoyées, ça devient vraiment le cœur de valeur ajoutée du cadre dirigeant.
Merci beaucoup Domitien pour ces apports. Alors, on fonctionne depuis de nombreuses années sur la question de la transversalité, sur la question du mode projet. Est-ce que tu aurais, toi, une approche un peu plus fouillée sur la question de l'évolution du manager? Alors, tu viens de parler effectivement de ses compétences à faire grandir pour les cadres dirigeants. Comment tu vois cette évolution? Et finalement, est-ce que le cadre dirigeant peut porter seul ou est-ce qu'il doit le porter collectivement au sein de son administration pour pouvoir faire évoluer justement ses manières de faire pour assurer cette transition écologique et assumer en même temps cette cohésion sociale?
Alors, sur la question de l'évolution des postures managériales, c'est un chantier qui a été engagé depuis de nombreuses années, qu'on remet sur l'ouvrage tous les ans aux ETS, et c'est heureux. Ce que j'aurais envie de dire, c'est d'une part que ce qui est essentiel, et ça peut paraître impossible de le dire, c'est de rendre les agents de tout niveau et de toute responsabilité absolument acteurs du changement. Deux exemples autour de ça. Un exemple très récent, depuis que j'ai pris mes fonctions à Voies Navigables de France, où j'ai des enjeux de management d'une grosse transformation de l'établissement à opérer, de modernisation des métiers, j'ai été, à vrai dire, assez saisi par la qualité du processus transformateur avec la multiplication pour tous les métiers techniques de ce qu'ils appellent des labs au niveau national qui associent des acteurs de terrain. Et tous les deux mois, les électromécaniciens ou les éclusiers, par exemple, désignés par leur pair, se retrouvent à Paris sous une animation collective pour penser les métiers de demain de manière très concrète. Et c'est évidemment au travers de ces méthodes-là où on rend les acteurs, y compris de terrain, acteurs du changement, qu'on facilite la transformation. Et aujourd'hui, ça se limite trop souvent à une vague information qui prend parfois la forme d'une petite co-construction. Mais je crois qu'il faut aller plus loin et plus densément, de manière plus approfondie dans ce processus de co-construction avec les acteurs du changement à toute échelle. La deuxième remarque que j'ai envie de faire sur le management, c'est que nous sommes saturés dans nos organisations publiques de démarches managériales qui sont trop souvent pensées et pilotées d'en haut. J'ai eu l'occasion, en tant que DGS d'une aglo, d'essayer de voir les choses autrement en confiant à un collectif de 10 agents, qu'ils soient cadres ou non cadres, qui étaient des volontaires, qui étaient des pépites qu'on avait repérées dans l'organisation pour leur contribution aux dynamiques collectives. Et on leur a donné carte blanche avec le collectif de DG pour proposer une démarche managériale sur plusieurs leviers, la communication interne, l'accueil des nouveaux arrivants, la création d'une charte des valeurs managériales. Et à la fois, le résultat qui en ressort est moins coûteux parce qu'on n'avait pas les moyens de créer des fonctions internes d'accompagnement managérial. Donc, on a mobilisé un peu du temps et de l'énergie de ces agents-là. Et d'autre part, le résultat est bien plus bénéfique parce que le message vient du terrain et il est certes accompagné, mandaté par la direction générale, mais avec une forme de lâcher-prise assez importante. Et du coup, in fine, tout le monde est gagnant. Enfin, dernière remarque que je voulais faire sur la question non pas là du management, mais plutôt du management des politiques publiques. On parle souvent, et sujet très à la mode, de la fameuse mise en récit des transitions. De ce point de vue-là, force est de constater que sur les 10-15 dernières années, on a été saturé de projets de territoire, qui étaient un peu le pendant externe des démarches managériales en interne. Qu'aujourd'hui, cette dynamique de projets de territoire s'essouffle un peu. Et moi, je vois poindre en tant que signal faible vraiment intéressant l'émergence des marques territoriales ou des marques de collectivité comme un moyen d'accompagner les transformations. Deux exemples là aussi. La marque Pyrénées que j'ai eu l'occasion de piloter et de déployer dans ma précédente expérience à l'Agence des Pyrénées qui visait finalement à fédérer l'ensemble des acteurs des Pyrénées publics ou privés autour d'un mot d'ordre très général qui est « c'est dans les Pyrénées que s'invente le monde d'après ». Et autour de ça, nous avons réussi à cristalliser une énergie collective d'entrepreneurs pyrénéens et d'acteurs publics assez impressionnante. Et nous avons réussi surtout à nous mettre d'accord sur une vision simple qui nous permettait de rassembler toutes les énergies. Autre exemple que je vis actuellement à Voies Navigables de France, qui est vécu comme un opérateur d'État de gestion d'une infrastructure fluviale, et où tout l'enjeu de transformation est de devenir un acteur de gestion durable de la ressource en eau et un acteur de développement des territoires, en dialogue beaucoup plus actif avec les territoires. Une démarche de marque est en cours, dont la raison d'être est Voies Navigables de France, les voies des possibles, au pluriel. Et autour de ça, il y a toute une segmentation des cibles auxquelles Voies Navigables de France s'adresse, des promesses qu'elle peut faire. Et là, au-delà d'une démarche marketing, qui aussi crée du sens, du sentiment d'appartenance, de la fierté pour les agents. C'est une vraie démarche d'introspection sur est-ce qu'on est au rendez-vous de toutes nos raisons d'être vis-à-vis de celles et ceux qui sont nos cibles. Et donc, on parle beaucoup des marques employeurs. J'ai envie de dire, en élargissant un peu le propos, les marques de territoire, d'entreprise, d'établissement deviennent, à mon sens, des démarches intéressantes et extrêmement structurantes pour porter des récits. Et enfin, et pour conclure, pour répondre à ta question, Jean-Christophe, sur est-ce que le changement Il relève d'un leader ou il relève d'un collectif. J'ai envie de faire une réponse de Gascon en disant les deux, mon capitaine. Bien entendu qu'aujourd'hui, face au choc auquel sont soumises nos organisations de toute nature, la clé de la robustesse, c'est le collectif. Et l'obsession, je crois, de tout cadre dirigeant, ça doit être de créer et d'entretenir un collectif à tous les niveaux, parce qu'un collectif fort, c'est les moyens d'avoir une organisation robuste et résiliente. Et pour autant, créer ce collectif, ça nécessite du leadership. Et donc, disposer d'un leadership fort qui porte de l'attention à ses collectifs, qui soit dans la prise, le fait de prendre soin de son collectif, mais aussi des individus qui le composent, sans s'oublier soi-même, puisque le DGS missionnaire a aussi ses limites. Il faut aussi que, pour être un leader bien sur ses assises, il faut qu'il soit équilibré, qu'il ait du temps pour lui, qu'il ait du temps pour réfléchir, du temps pour respirer. Je crois que finalement, la réponse, elle est la clé de la robustesse et de la résilience, c'est le collectif. Mais pour ça, il faut un leadership fort, éclairé, nuancé, un leadership d'écoute et d'accompagnement. Et donc, pas de collectif sans interrogation profonde sur le type de leadership dont on a besoin dans nos organisations publiques.
Merci beaucoup pour ces outils que je pense chacun de nous pourra mobiliser au quotidien demain.
Merci à vous, merci à Mathilde et Domitien, et on vous dit à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, bravo.